Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Hélène. Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir Olivier.
Alors nous nous étions parlé la semaine dernière et je vous ai invité à finir votre récit parce que nous étions vraiment au milieu, hein. En tout cas pas très avancé dans le récit, mais il nous restait quand même à connaître la fin de votre récit. Est-ce que vous pouvez me résumer ce qu'on s'est dit jeudi en quelques phrases?
Oula.
Je préfère que vous le fassiez parce que vous serez beaucoup plus précise que moi.
Alors, le père de mon fils et moi-même nous sommes mariés en 1983. Nous nous sommes séparés. Nous nous sommes mariés en 1983. Mon fils est né en 1984 et nous nous sommes séparés en 1986. De mon fait, c'est moi qui avais voulu la séparation. À partir du moment où la séparation a été effective, le père ne s'est plus du tout occupé de l'enfant. Et on ne pouvait pas compter sur lui. C'était des visites sporadiques, on ne pouvait pas compter sur lui.
Il a clairement démissionné à cette époque. Pendant combien de temps?
Alors, on appelle ça démission. Vous pouvez appeler ça démissionner si vous voulez. Pour moi, c'était surtout de l'absence complète. Et qui faisait que, comme la vie d'un enfant, c'est quand même plutôt très organisé, on ne pouvait pas compter sur lui. Donc, à partir de là, moi, j'étais étudiante à l'époque. Donc, progressivement, j'ai mis en place avec ma mère un fonctionnement en binôme, on va dire. À toutes les deux, on a fait une sorte de résidence alternée, si vous voulez. Donc, l'enfant résidait chez elle la semaine. Je le prenais, moi, le week-end. Et je le prenais aussi pendant les vacances scolaires. Voilà. Bon, la CAF me disait que j'aurais dû faire une plainte pour abandon de famille. Ce que j'ai pas voulu faire, parce que comme c'était moi qui avais voulu la séparation, je voulais pas en rajouter, quoi. Et puis, ensuite, j'ai essayé de faire des demandes de divorce, deux demandes successives auxquelles il n'a pas répondu. L'avocate que j'avais vue alors me disait il faudrait faire une procédure agressive. S'il répond pas, de toute façon, le divorce sera prononcé sans son accord. J'ai pas voulu non plus faire comme ça et j'ai dit bon, on va attendre qu'il ait digéré quoi la séparation et que voilà. Bon, et les choses continuent comme ça, donc de 1986 jusqu'en 1991, avec lui qui venait de temps en temps, coucou, c'est moi, qui versait de l'argent de la même manière de temps en temps. Moi, entre temps, j'avais commencé à avoir un nouveau compagnon. Et puis, un jour, fin 1991, il m'appelle en me disant « Ah, écoute, ce serait bien, j'ai une nouvelle compagne, ce serait bien qu'on divorce. » « Ah, écoute, très bonne idée, enfin !» et donc, on se voit, on va boire un verre ensemble. Et, très bien, hein, on n'était pas fâchés, j'en ai jamais été fâchée, hein, très bien. Et... là, il m'explique donc qu'il proposait qu'on fasse un divorce amiable. Bon, très bien. Je dis, écoute, on va aller voir un avocat ensemble alors. Ah non, je m'en occupe, t'inquiète pas. Bon, très bien, occupe-toi-en, quoi. Et puis, quelques temps après, je reçois une lettre en recommandé accusé réception qui venait du tribunal donc de grande instance, si je ne me trompe pas, que je vais chercher à la poste. Et quand je l'ouvre, je vois une première page qui était une convocation à ce qu'on appelait une conciliation, parce que ça se fait comme ça, il y a toujours ce qu'on appelle une tentative de conciliation. Enfin, à l'époque, ça se faisait encore comme ça, avec une date de rendez-vous, tel jour, telle heure, avec tel magistrat. Bon, très bien. Et puis, derrière, il y avait une deuxième page, un torchon, quoi. Un torchon d'avocat avec un intitulé « Divorce pour faute ». Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Où on me racontait ma vie de manière mais complètement délirante, quoi. Complètement délirante.
C'est-à-dire ?
Pff, faisais pas ci, je faisais pas ça. Enfin, j'étais pas la femme parfaite, quoi. En gros, voilà. Franchement, quand j'ai regardé le truc, on était en 1991. J'ai vérifié, c'était pas 1891, vous voyez, voilà, quoi. Un regard sur la femme, mais d'un autre temps, quoi. Voilà, quoi. Alors que paradoxalement, excusez-moi, on avait quand même vécu dans ma maison familiale où il était hébergé. Dans ma maison familiale, il n'avait jamais rien fait pour chercher à héberger sa famille si on voulait venir sur des pensifs traditionnels. Au milieu de tout ça, on me disait que j'avais confié mon fils à ma mère. Délirant, quoi. Alors que ça faisait 5 ans qu'on l'attendait, quoi. Alors, mon premier réflexe par rapport à ça, ça n'a pas été d'aller voir un avocat. Hein. Ça a été de téléphoner au tribunal, parce qu'ils répondaient encore à cette époque-là quand on les appelait. Et j'ai demandé à parler à la juge, quoi. Et évidemment, on ne me l'a pas passé, mais j'ai eu une greffière. Je lui explique à la greffière, j'ai dit, mais attendez, c'est complètement délirant ce que j'ai reçu, là. Et je lui explique l'histoire, quoi. Et en lui disant, mais moi, j'ai fait 2 demandes de divorce, il a jamais répondu, quoi. Et puis, ça fait 5 ans qu'il s'occupe pas de son fils. La photo de départ, mais elle est complètement fausse, quoi. Elle est complètement fausse, quoi. Ah oui, mais c'est une procédure contradictoire. Il faut que vous répondiez, sinon vous aurez tort. Donc, moi, quand j'entends parler de couples en conflit, non, les couples, ils ne sont pas en conflit. Il y en a un qui crée le conflit et l'autre est obligé de suivre. C'est ce que j'ai vécu. Hein. Dans toute la procédure que j'ai traversée, j'ai toujours été en défense. Je n'avais pas provoqué ce conflit, je ne voulais pas y être. J'ai été obligée d'y être car mon silence et mon mépris auraient valu acceptation des accusations contre moi et auraient eu des conséquences aurait eu des conséquences extrêmement graves. Donc, là-dessus, ben, il faut bien aller voir un avocat. Je vais voir un avocat. Et mon avocat reçoit le dossier de son avocat oui. avec toutes les pièces que ça comportait. Alors, ce dossier, il consistait. Il était fait des choses suivantes. Il y avait une série d'attestations venant de personnes que je ne connaissais pas, qui probablement étaient des connaissances récentes, qui ne connaissaient pas l'histoire des 5 années précédentes où il avait été complètement absent, et qui nous disaient combien il était un bon papa, très attentif avec son enfant. Il y avait d'autres attestations de gens que je connaissais, qui étaient ses amis, qui disaient combien j'étais une femme insupportable. Et puis, il avait un certificat d'MSI, qui disait combien j'avais une relation trop fusionnelle, combien je perturbais cet enfant et combien j'avais une relation trop fusionnelle avec lui. Alors que je vous rappelle qu'on me reprochait de pas assez m'en occuper. Donc, je veux dire, tout est son contraire.
Oui.
Voilà. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait donc quand je me suis retrouvée chez la juge. La juge, la première fois, elle m'a fait rentrer toute seule. Elle a discuté avec moi toute seule au départ. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé, c'est « qu'est-ce que vous en pensez ?» Je lui ai dit « écoute, c'est délirant, quoi. Je lui ai expliqué le truc. » Oh, mais en gros, elle a balayé un peu sa main, d'un air de dire « oh, blabla d'avocat, blabla d'avocat. » Ouais, blabla d'avocat. En attendant, elle a demandé une enquête sociale. Et à partir de là, ça a été le début de la catastrophe, quoi. Parce que il était décidé à vouloir, nonobstant ce qui avait été son attitude auparavant, il voulait demander la garde exclusive de l'enfant. Et personne jamais, 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 jamais pour lui dire « Bon, écoutez, monsieur, ça fait 5 ans qu'on vous attend quand même, quoi. Voilà. Peut-être que c'est votre femme, vous pourriez peut-être simplement vous montrer présent, ça suffirait, quoi. Voilà. » Non, on était dans les années 90, c'était le grand vent médiatique débutant autour des pères qui étaient exclus, de la parole de l'enfant, etc. Et tout le monde s'est engouffré là-dedans, quoi. Alors, il y avait d'un côté lui qui disait qu'il voulait s'occuper de son fils. Oh, très bien, pourquoi pas. Et moi, quand on me disait ça, indépendamment du fait de la manière dont les choses se passaient, de son agressivité, du fait qu'il faisait une procédure agressive, que sa compagne n'avait pas d'enfant, et que je voyais bien qu'elle investissait beaucoup sur mon fils, qu'elle cherchait, mais en fait, mais complètement à à m'écarter. Et puis, puis j'avais beaucoup de mal à avoir des contacts avec lui, etc. Donc, je voyais bien que s'il allait chez son père, ça, je sentais que ça allait très mal se passer, quoi. Et j'avais la sensation que l'intérêt soudain qu'il avait pour son fils n'aurait d'égal que la désaffection qu'il aurait ensuite, quoi. Et que mon fils, là-dedans, ne serait qu'un jouet qu'on prendrait et qu'on renverrait ensuite, quoi. Mais comme il y avait ce vent médiatique dans les années 90, etc., quand on me disait il veut s'occuper de son fils, il veut avoir son fils avec lui, moi, j'ai pas été assez basique, vous voyez. J'aurais dû dire non, je veux rien savoir, je veux mon fils avec moi, point barre, voilà. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, bah, écoutez, c'est son père, c'est le père que je lui ai choisi, il voudrait s'occuper de son fils, l'avoir avec lui, bah, pourquoi pas. Sur le fond, pourquoi pas. Ce qui me dérange, c'est la forme. C'est-à-dire la procédure agressive, dont de toute évidence, elle est basée sur une vengeance qui est motivée par un dépit amoureux. Et la motivation n'est pas bonne. Du reste, vous savez ce que me disait mon avocat? Mon avocat me disait, madame, je pense que votre mari est toujours amoureux de vous, et c'est la seule explication que je vois à tant d'acharnement sur vous. Voilà.
Et vous pensez quoi de ça, à l'époque?
Qu'il avait raison. Oui. Qu'il avait raison. Moi, quand l'avocat m'a dit ça, je lui ai dit, écoutez, maître, c'est bien que vous l'ayez compris. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas compris dans un tribunal, quoi.
Bon, en tout cas, résultat de tout cela, c'est que...
Alors, le résultat de tout cela, c'est que, à un moment, mon fils... Alors, je n'étais pas présente, je ne sais pas comment ça s'est passé... Comment on arrivait à le faire parler, mais on m'a dit que mon fils avait dit qu'il voulait aller vivre avec son père. Bon, ben, pourquoi pas. C'était facile à comprendre, parce que en fait, pendant 5 ans, moi, j'avais jamais cassé l'image du père. Quand il apparaissait, ben, je le laissais aller avec son père. Donc, il l'avait connu, son père. Il avait quand même passé 2-3 ans auparavant. Donc, il était content de retrouver son papa. Et puis, il a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour le séduire, quoi. C'est-à-dire qu'il habitait à la campagne, il venait le chercher, il l'emmenait en week-end sympa, etc. Donc, je comprends que mon fils, il dit qu'il voulait aller avec son père. Donc, ben, ça me réjouit. Sur le fond, ça ne me déplaisait pas, mais c'était dans la forme, comme je viens de vous l'expliquer, parce que je sentais que ça se passerait mal. Je n'avais pas prévu les coups, mais je sentais que mon fils, là-dedans, n'était qu'un jouet, quoi.
Oui, parce qu'au final, votre fils s'est plaint. Et comment avez-vous découvert qu'il prenait des coups, que son père était violent avec lui?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, cette période d'enquête sociale, ça s'est passé, en gros, on va dire, c'est de fin 1991 jusqu'à septembre 1992. Quand il a été décidé donc que mon fils... En fait, il faut aussi que je vous raconte, on en avait parlé de ça, c'est que auparavant, il s'était amusé aussi, il faisait des trucs, mais il s'amusait quand il venait chercher l'enfant à pas venir de temps en temps, à porter des plaintes pour non-présentation d'enfants qui étaient complètement injustifiées. C'est-à-dire qu'il ne venait pas, puis le dimanche matin, il allait au commissariat en disant j'ai pas pu avoir l'enfant. Il a fait comme ça 7-8 fois.
Oui, parce que comme nous l'évoquions ce jour-là, lorsque nous avions eu une auditrice qui nous avait fait remarquer que les juges étaient dans toutes ces affaires-là, qu'il ne fallait pas incriminer les juges et cette justice familiale, parce que finalement, ces juges avaient peu d'éléments et peu de moyens pour parvenir à connaître tous les aboutissants. Comment dit-on, comment, voilà,
les tenants et les aboutissants.
Les tenants et les aboutissants d'une affaire. Et cet homme, visiblement, a bien compris cela, puisqu'il a porté plainte plusieurs fois contre vous pour non-présentation d'enfants, alors que c'était lui qui vous mettait... Enfin, il se mettait en tort et après, il vous accusait de ne pas avoir présenté l'enfant.
Ben vous savez ce que me disait aussi mon avocat? Mon avocat, il me disait, madame, est-ce que votre mari a des relations dans la police? Je lui disais, mais pourquoi est-ce que vous me dites ça, maître? Alors, il me disait, mais parce qu'on dirait qu'il sait exactement ce qu'il faut faire pour faire de la procédure. Voilà ce que me disait l'avocat.
Mmh. Alors, on a encore 11 minutes pour arriver à comprendre ce qui vous est arrivé. Votre fils donc prend des coups à un moment. En tout cas, vous apercevez que cet homme est violent avec lui. Est-ce qu'il vit d'autres agressions, votre fils, autres que des coups? Est-ce que il le manipule?
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que au début, dans les premiers week-ends où mon fils venait chez moi, donc là, j'étais devenue une maman comme un papa traditionnel. Donc, ça peut très bien se passer comme ça, exactement de la même manière pour une maman.
Oui.
J'étais une maman qui avait le droit de visite un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et qui payait la pension alimentaire que j'ai toujours payée réglo, quoi. Voilà. Donc, mon fils, lors d'un week-end, je ne me rappelle plus exactement la date, au bout de 2-3 mois, mais très rapidement, un samedi soir, alors qu'il était chez moi, me dit « Maman, samedi soir, il faut que je te parle. » Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Il avait 8 ans. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas heureux chez papa, il me frappe. Et là, il commence à me montrer des traces qu'il avait sur le corps. Il m'explique qu'il avait pris, qu'il était au sol et que son père, qui avait des bottes, l'avait frappé.
Voilà. Mmh.
Donc, ok, là-dessus j'appelle, on était samedi soir, je devais rendre l'enfant le dimanche soir. Hein. Donc, j'appelle SOS médecin, le médecin vient, il écoute l'enfant, il voit les traces, il fait un certificat où il décrit et ce qu'il voit, et il est dire de l'enfant. Le lendemain matin, je vais à la brigade des mineurs, je porte une plainte. Et l'avocat des mineurs me dit, nous transmettons au tribunal, on est dimanche, mais il y a toujours un magistrat de garde, on vous donnera une réponse dans la journée. Bon, ok, j'attends. Pas de réponse. Le dimanche soir, le père vient chercher l'enfant, et là, je lui dis, écoute, je ne te le donne pas, je l'explique. Ah, c'est comme ça, je vais à la police. Très bonne idée, vas-y à la police. Et surtout, reviens avec eux. Donc, il revient avec deux policiers à qui j'explique ce qui se passe. Le policier téléphone au magistrat au tribunal, lequel magistrat répond qu'il ne prend pas de décision, qu'il faut que je rende l'enfant au père et que je verrai avec mon avocate le lendemain. Donc le policier dit au magistrat, ça se voit qu'il est battu cet enfant. Non. Donc le policier à ce moment-là me dit écoutez madame, on va faire une chose, gardez l'enfant puis vous l'amènerez demain matin à l'école. Donc ce que je fais, en pensant qu'au regard du certificat médical et de la plainte à la brigade des mineurs, mon avocate allait pouvoir agir vite et que rapidement mon fils serait enlevé à son père, en tout cas qu'il se passerait quelque chose. Et quand j'appelle l'avocate le lundi matin, elle m'explique qu'elle va transmettre au JAF, mais que pour l'instant, il s'agit d'un fait isolé. Et que mon fils vit depuis peu chez son père, et donc que l'ensemble fait que nous ne serons pas écoutés probablement. Qu'il faut d'autres faits répétés.
Ouais, en gros, il n'a pas été assez battu, en gros.
En résumé, oui.
Bah oui.
Donc, lorsque mon fils revient 15 jours après, je l'emmène chez une psychologue qui avait accepté de me recevoir le samedi après-midi. C'est pas facile d'agir quand on a un enfant en week-end et en vacances. Et là, mon fils, il parle à nouveau. Et cette psy, elle fait un certificat où elle explique que l'enfant n'est pas heureux, maltraité, qu'il souhaite revenir chez sa maman. Et nous transmettons au JAF. Ça ne suffit toujours pas pour que le JAF et le juge pour enfants réagissent. Et puis, au droit de visite suivant, ce sont des vacances d'une semaine. Donc, mon fils est avec moi en semaine, et là, j'avais pris contact avec l'avocat de l'enfant, ça venait d'être créé en 1993. Et quand il arrive chez moi, je lui dis, on va aller voir un avocat pour enfant. Et là, clac, blocage, mon fils me refuse d'y aller. Il ne veut plus rien dire, il ne veut plus parler. Alors, à ce qu'il me dit à cette époque, c'est qu'il en a marre de rencontrer des psys, qu'il en a marre de... Voilà, il veut plus en entendre parler. Mais aujourd'hui, il a 35 ans, donc il m'a expliqué ce qui s'est passé, pourquoi il a réagi comme ça.
Oui.
Quand on lui avait demandé son avis et s'il aimerait aller vivre chez son papa, il avait dit oui. Donc, il avait constaté qu'on l'avait écouté.
Mmh.
Donc, il pensait en me parlant et en m'expliquant qu'il était battu chez son père.
Et ça allait continuer.
Qu'on l'écouterait à nouveau.
Mmh.
Et qu'il ne retournerait pas chez son père. Mais comme il a vu qu'on ne l'écoutait plus et que j'ai été obligée de le renvoyer chez son père, il a eu peur. Il était terrorisé, avec la sensation que son père était tout puissant. D'autant qu'au coup, après se mêlait la pression psychologique. Son père et sa compagne lui reprochaient d'avoir parlé, le menaçaient s'il parlait encore. Donc il s'est fermé, cet enfant, à 8 ans. Et le piège s'était refermé sur lui, le piège juridique. Parce qu'on n'inverse pas une décision de justice comme ça. La justice n'aime pas reconnaître qu'elle s'est trompée. Et pour que ça ait été le cas, pour qu'on inverse rapidement la décision, ben, il aurait fallu des constats médicaux et des plaintes répétées. Mais comme d'une part, je voyais peu l'enfant, et comme d'autre part, il n'osait plus se plaindre, ben, il n'y avait pas de faits répétés. Donc, il n'y avait pas de maltraitance.
Et donc, cette situation a duré combien de temps ?
Et l'unique plainte que j'ai pu déposer est devenue anecdotique, isolée, et elle n'a pas été considérée. Combien ça a duré ? 5 ans.
5 ans.
Donc, l'enfant, eh bien, s'était fermé pour se protéger en supportant la maltraitance physique et psychologique de son père et de sa compagne. Mmh. Et j'avais beau lui dire quand il venait chez moi, « Dis-moi, parle-moi, il faut d'autres plaintes pour que je puisse agir. » Non, non, il s'était bloqué et il est rentré dans un mode de vie complètement binaire, cet enfant, où il y avait d'un côté sa vie dure, pénible, stressante chez son père, où il surveillait ses faits et gestes pour ne pas prendre de coups. Et puis de l'autre, il y avait les plages de liberté, rares, chez maman, où il faisait de la peinture, du cerf-volant sur la plage, parce que je suis près de la mer, où il allait à la pêche avec mon compagnon. Mmh. Enfin, j'ai fini par faire en sorte que lorsqu'il était chez moi, ce soit une respiration, quoi, pour lui. Ouais. Et je crois que c'est ça qu'il a sauvé, puisqu'il fallait supporter pour l'instant. Mais en fait, j'étais complètement désemparée et sachant plus quoi faire. Donc, mon compagnon, qui était tout aussi choqué et désemparé que moi, a fini par m'inciter à changer d'avocat à ce moment-là, ce que j'ai fait. Et là, je vais voir un monsieur, un avocat beaucoup plus posé, beaucoup plus installé, d'une 50aine d'années, qui était assis dans la profession, et qui me dit que pour l'instant, ben, malheureusement, il faut tenir, que c'est trop tôt pour que nous puissions demander une nouvelle enquête sociale et psychologique. Et en me disant, pour me rassurer, que comme j'ai porté tout de même une plainte à la brigade des mineurs, ben, le père va probablement se modérer. Ouais, se modérer. En tout cas, mon fils, il a 35 ans aujourd'hui et il m'a raconté comment ça se passait chez son père et sa compagne. Alors, par exemple, si mon fils avait eu un comportement qui n'avait pas plu à la compagne, elle en parlait au père quand il rentrait. Et comme il travaillait dans la restauration, le papa, ben c'est vers 1h du matin qu'il rentrait. À ce moment-là, le père réveillait furieusement l'enfant en le plaquant contre le mur. Il lui faisait des reproches, il le terrorisait. Et puis ensuite, mon fils devait se rendormir pour aller à l'école le lendemain matin. Donc là, le temps a passé, un an, 2 ans. Entre-temps, sa compagne avait eu deux enfants. Et mon fils, en fait, était devenu en quelque sorte le paravent de cette femme pour mes propres enfants contre son fils. Parce qu'en fait, elle excitait le père contre mon fils pour protéger ses propres enfants à elle.
Ce qu'on va par faire, ailleurs, Hélène, on va oui marquer une légère pause, le temps oui du flash de la nuit. Comme ça, on pourra prendre encore quelques minutes pour voir comment vous avez fait face à cette situation, mais surtout comment ce garçon qui a 35 ans aujourd'hui a réussi à se sortir de tout ça, parce que vous évoquiez jeudi dernier qu'à 35 ans aujourd'hui, cet homme,
hein, 35,
oui, c'est ce que je disais. 35 ans, on va voir quel a été l'impact de toute cette période vécue aux côtés de cette belle-mère très manipulatrice et ce papa qui a été violent. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Mmh.
Yeah. Europe 1. 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Continuez à essayer de nous joindre au 39-21 pour nous livrer votre histoire, votre témoignage. 50 centimes d'euros la minute ou au 739-21 par SMS. 739-21 en commençant par le mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. N'hésitez pas, nous sommes là. Florian et Natacha et Jean-François sont là pour vous accueillir. Nous sommes toujours avec Hélène. Hélène, ce fils qui a aujourd'hui 35 ans et qui a été contraint par la justice, hein, finalement, de passer...
Oui, avec la bénédiction de la justice française. Hein.
Alors, avec la bénédiction. On évoquait tout à l'heure que cette justice avait eu beaucoup de mal à reconnaître cette route. Trompée parce que...
Elle n'a jamais reconnu qu'elle s'était trompée. Si vous me laissez expliquer, ils ont réussi à ce que ça ne soit jamais retranscrit.
Alors expliquez-moi.
Mon fils chez son père, en fait, était aussi également devenu un peu le Cosette de la maison. Par exemple, il devait se lever le matin avant tout le monde pour faire la mise en place du petit déjeuner, faire la vaisselle, balayer, etc. Parce qu'entre-temps, il y avait eu un événement important. Peu après la plainte que j'avais pu porter à la brigade des mineurs, le père et sa compagne avaient déménagé à 600 km dans un trou perdu en Corrèze. Conséquence, les droits de visite de un week-end sur deux avaient été supprimés. Il ne restait plus que les moitiés de vacances scolaires, ce qui renforçait encore la pression sur l'enfant du père et la sensation de toute puissance du père sur l'enfant et ainsi que celle de sa compagne. Et puis cela compliquait l'exercice du droit de visite, parce que quand vous avez la moitié des vacances scolaires, si par exemple vous avez 5 ou 6 jours pour voir l'enfant, si vous en pensez la moitié à faire des allers et retours, c'est pas possible. Et c'est ce que le père cherchait, que je renonce à exercer le droit de visite et de finir de tisser sa toile étouffante sur l'enfant. Et la seule solution, elle a été onéreuse, c'est de faire voyager l'enfant en avion, avec hôtesse accompagnatrice, avec des billets d'avion que j'achetais et que le père devait retirer au guichet à Clermont-Ferrand, parce que je ne lui envoyais surtout pas, parce qu'il aurait été capable de dire que je ne lui avais rien envoyé et de ne pas mettre l'enfant dans l'avion.
Oui.
Donc, en fait, à l'époque, je payais la pension alimentaire, les billets d'avion, l'avocat, pour ne pas perdre contact avec mon fils. Et en dehors des moments de droit de visite, je n'avais aucun contact téléphonique avec lui. Je ne pouvais pas lui parler. Et l'enfant ne pouvait pas m'appeler non plus. Il était complètement isolé. On ne lui remettait pas mes courriers, mes colis. On me les renvoyait. Les seuls contacts que j'avais, c'était des courriers RAR avec le père pour organiser les modalités du droit de visite. Donc, vous comprenez la raison pour laquelle j'ai fini par pouvoir vous appeler. Et mon agacement quand j'entends parler du droit de l'exclusion des pères. Parce que je peux vous dire qu'une mère, je l'ai vécu, peut vivre exactement la même chose.
Oui, mais on a évoqué que c'était des pères, mais qu'il y avait aussi des mères dans l'ensemble.
Oui, mais le problème, c'est pas SOS papa, hein, c'est SOS parent exclu. Donc, au bout de 3 ans de ce régime pour mon fils, il y a eu un nouvel événement en 1996. Qui a été au départ malheureux, mais qui finalement a débloqué la situation. Pour un droit de visite, je vais avec mon compagnon à l'aéroport chercher mon fils.
Oui.
Et là, personne. Pas d'enfant à l'arrivée. Je vais au guichet de la compagnie. L'enfant n'avait pas embarqué. Le père ne l'avait pas présenté à l'aéroport. Il n'avait pas retiré les billets d'avion. Donc, j'appelle mon avocat, lequel appelle la gendarmerie de Trifouilly-les-Oies en Corrèze, et lesquels gendarmes se rendent au domicile du père. Et puis, rappelle mon avocat, il lui explique que le droit de visite a été supprimé parce que je ne m'étais pas rendue à une convocation d'un tribunal local auquel j'aurais dû me rendre. Bon, le droit de visite supprimé, quoi. Voilà.
Et vous n'aviez pas été informé du tout de ça?
On dit à mon avocat, On dit à mon avocat que le droit de visite a été supprimé parce que je ne me serais pas rendue à une convocation judiciaire. Donc, mon avocat se renseigne auprès du tribunal qui avait envoyé la dite convocation. Et là, on explique à mon avocat que le père avait fait valoir un rapport psychologique qu'il avait fait faire établir tout, où il était dit que l'enfant était perturbé et que c'était moi la mère qui était la cause de la dite perturbation et qu'il avait de mauvais résultats scolaires. Donc déjà, bravo le psy qui n'avait absolument pas cherché à rentrer en contact avec moi et qui n'avait pas perçu dans ses entretiens avec l'enfant que l'enfant était terrorisé par son père, battu, qu'il voyait peu sa mère et que c'est peut-être pour ça qu'il était perturbé. Parce que si moi j'avais pu aller le voir ce psy à l'époque, je lui aurais amené le dépôt de plainte à la brigade des mineurs et le certificat de SOS médecin. Donc, conséquence, le père demandait des visites en milieu médiatisé pour que je voie uniquement mon fils en milieu médiatisé, quelques heures lors de vacances scolaires, où je pouvais le voir, à peine, où j'aurais pu le voir à peine, voilà. Alors qu'il était à 600 km. Donc là aussi, bravo à l'avocate hein, qui avait fait présenter cette demande par le père en sachant qu'elle allait condamner l'enfant à ne plus voir sa mère. Et pourquoi est-ce que je n'avais pas reçu la convocation au tribunal où ceci devait m'être notifié? Parce qu'en fait, on m'avait convoqué pour me notifier.
C'était ma question.
Voilà. Eh bien, parce que le père m'avait fait domicilier à une ancienne adresse. Quand le divorce avait commencé, j'habitais à une adresse et entre-temps, j'avais déménagé. Donc il avait ressorti d'anciens papiers. Il m'avait fait domicilier à une adresse et je n'avais pas pu recevoir la convocation.
Donc tout ça, sciemment.
Bien sûr. Donc il l'avait fait exprès. Donc il a quand même bien fallu, à ce moment-là, de toute manière, même si c'était complètement... Il y avait une tromperie monumentale, quoi. Mais il a bien fallu, de toute façon, à ce moment-là, respecter la décision qui était exécutoire. Le droit de visite était supprimé.
Ça veut dire que vous n'aviez plus le droit de voir votre fils, du tout?
Mais surtout, mon fils n'avait plus le droit de me voir, je crois. C'était ça le plus important. Quoi. Donc, la seule solution, c'était de faire appel. Donc, mon avocat a fait appel. On nous donne rendez-vous dans 6 mois pour une date de convocation en appel. Ça veut dire déjà que pendant 6 mois, l'enfant ne voit plus sa mère. Hein, avec toute l'inquiétude que ça peut susciter. Comment est-ce que va l'enfant? Avec qui avec le même contact qui me restait avec lui, comment est-ce qu'il allait, quoi? Je veux dire, j'étais folle d'inquiétude, quoi. Je n'allais plus le voir s'inédier si jamais le droit de visite n'était plus rétabli, quoi. Et avec une conséquence financière énorme, énorme. Pour pouvoir aller plaider à 600 km, il fallait envoyer l'avocat plaider donc là-bas, dans ce tribunal de campagne, ce qui voulait dire... billet d'avion RAR dans la journée pour l'avocat, location de voiture pour aller de l'aéroport au tribunal à peu près 80 km, restaurant, frais de bouche pour l'avocat, et ensuite prix de la journée de travail de l'avocat qui, pour aller plaider durant une heure à peu près à 600 km, est parti tôt le matin et rentré tard le soir. Heureusement, l'avocat avait été outré, quoi, puis il était sensibilisé par cette affaire, et il ne s'est pas fait payer, heureusement, au tarif horaire, il a fait un forfait. Mais c'était cher quand même. Hein. Donc, si cet enfant n'avait pas eu une famille, une grand-mère, ben nous n'aurions pas pu payer l'avocat. Le droit de visite serait demeuré suspendu. Et cet enfant, ben, il aurait été perdu. Hein. Phagocyté par son père jusqu'à ses 18 ans, avec la bénédiction de la justice française. Quoi. Et je pense, à mon avis, qu'aujourd'hui, il serait mort. Hein. Ou bien perdu, drogué, égaré. Quoi. Mais donc, j'ai une famille. J'ai pu envoyer mon avocat plaider en appel à 600 km. Et ça a été le tournant positif de cette mauvaise aventure. Parce que nous avons fait une démonstration de force. Mon avocat a pu rencontrer les magistrats en appel et faire comprendre ainsi que cet enfant avait une mère qui veillait sur lui, qui ne lâcherait pas le morceau, quoi. Qui avait une famille aussi derrière. Faire savoir que le père avait utilisé une mauvaise adresse pour que je ne puisse pas répondre aux convocations. Donc, il y avait une volonté de tromperie de la justice. Et là, il est allé trop loin dans sa sensation de puissance.
Ouais, ouais.
Et il a montré son vrai visage, la manipulation. Donc, l'avocat a pu démontrer l'acharnement juridique du père par tout moyen et la motivation de la mère. Et enfin, mon avocat a balayé le rapport psy en disant que ce psy ne m'avait jamais vu, jamais rencontré. Et donc, on voyait mal comment il pouvait faire mon portrait comme celui d'une mère perturbante pour l'enfant. Par ailleurs, ce jour-là, donc les magistrats ont très bien compris, et il a obtenu, sur l'heure, le rétablissement du droit de visite à l'audience, sans attente du jugement. Donc, le droit de visite suivant, c'était au printemps, enfin, le droit de visite suivant, c'était l'été. Donc, mon fils a pu revenir immédiatement pour le droit de visite suivant, mais ça a fait donc 8 mois en tout, sans qu'il voit sa mère et sans que moi, je le vois, quoi.
Au final, Hélène, parce que, oui, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres auditeurs qui sont derrière vous. Au final, vous m'avez dit que cette situation avait duré 5 ans, ce qui veut dire qu'aux alentours de 13 ans, votre fils a pu revenir auprès de vous?
Alors, je signais. Donc, ce droit de visite suspendu donc, a été le tournant positif. Et immédiatement après, mon avocat a demandé une nouvelle enquête sociale et psychologique en précisant qu'on devait me rencontrer cette fois-là. Quoi. Et donc, mon fils, effectivement, avait à peu près... Là, on était en 1997, il avait 12 ans. Et donc... Là, ça a été positif aussi pour mon fils parce qu'il a vu que j'avais pu agir et faire rétablir le droit de visite. Donc, il a repris confiance. Et quand je lui ai dit qu'il allait avoir une nouvelle enquête sociale et psychologique et qu'il fallait qu'il parle et qu'il dise ce qui se passait chez son père et qu'il voulait revenir avec moi, là, il a dit oui et il l'a fait. Mais le temps que tout ça se déroule, ça a pris encore un an. Mais en fait, c'était un an d'espoir. Et surtout, là, le travail a été correctement fait dans ce petit tribunal de campagne. L'enquêtrice psychosociale a vu plusieurs fois mon fils avec attention. Elle l'a mis en confiance pour qu'il parle. Elle a pris contact avec moi par téléphone. Elle a fait 600 km pour venir me voir avec mon compagnon. Elle m'a rapporté catastrophé ce que mon fils disait de sa vie chez son père, qu'il demandait à revenir chez sa maman. Et ensuite, elle a fait un rapport. Mais dans ce rapport très positif à mon égard, il n'était nullement question de la maltraitance subie par mon fils chez son père. Complètement passé sous silence.
Ce qui veut dire quand même, que lorsque les choses se déroulent bien, c'est-à-dire que lorsque chacun fait son travail, mais qu'il a le temps de faire son travail dans ces oui. tribunaux qui sont totalement engorgés, comme souvent on le mentionne ici, les juges croulent sous les dossiers. Et donc n'ont pas le temps de faire bien leur travail. Là, vous avez eu affaire quand même à des gens qui ont bien fait leur boulot.
C'est-à-dire qu'effectivement, le dépaysement du père, donc, qui avait accentué l'éloignement, a au moins eu, in fine, cet avantage. C'est que je me suis retrouvée traitée par un petit tribunal de campagne. Quoi. Voilà.
Enfin, en tout cas, lorsqu'on vous écoute, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, lorsque un adulte, un des deux est en guerre, on voit toutes les conséquences que cela peut avoir.
Moi, j'ai toujours été en défense.
Je sais, en plus, dès le début, vous avez agi intelligemment et en tout cas, vous avez agi une mère qui estime que l'enfant a le droit de voir son père et vous avez toujours essayé de peser le pour et le contre, mais sans jamais nier l'existence de ce père. Et on voit quand même dans votre histoire que même quand on veut se comporter de bonne manière, cela peut être peut-être préjudiciable. En tout cas, dans votre cas, ça l'a été puisque vous avez essayé d'être juste. Hein, vous avez avancé.
Réfléchi.
Oui, réfléchi, mais juste aussi parce que au début, lorsqu'il revient 5 ans après, hein, cet homme, et qu'il dit qu'il veut voir son fils, vous dites pourquoi pas. Voilà, c'est le père de cet enfant. Vous n'avez jamais été.
En dépit du contexte extrêmement agressif de sa part, je persistais à dire sur le fond, pourquoi pas, mais voici les raisons pour lesquelles ça me semble pas une bonne idée. Et j'avais raison. Ce qui s'est passé m'a donné raison. Quoi, je veux dire.
En tout cas, écoutez, à l'écoute de votre histoire, on voit combien. Alors, c'est vrai.
Mais c'est pas fini. Laissez-moi terminer pour que vous sachiez comment ça s'est terminé.
Mais vraiment, il y a d'autres personnes derrière vous.
Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le rapport de l'enquêtrice sociale disait clairement que mon fils voulait revenir chez son père, qu'il faisait un portrait très, très, très positif de moi. J'ai ensuite été convoquée chez le juge aux affaires familiales. C'était un petit bureau, un juge tranquille dans son petit bureau, un petit tribunal de campagne qui m'a bien écouté, avec qui j'ai beaucoup pu discuter, on a discuté à bâton rompu, mais quand il a donné son jugement derrière, où il a enregistré la volonté de mon fils de revenir chez moi, lui non plus n'a jamais fait état de ce qui s'était passé et de l'enfer que mon fils avait vécu. Officiellement, il y a eu une évolution de la situation. Voilà. La justice n'a jamais reconnu ses erreurs. Quoi. Et ce que j'ai fait ce jour-là, c'est que je n'ai même pas demandé de pension alimentaire. J'en voulais surtout pas, vous voyez. Parce que quand il, au départ, il ne payait pas et que j'allais tous les 2 mois à la gendarmerie, je voulais sortir de là. Je ne voulais pas de pension alimentaire. J'ai simplement demandé à ce qu'il paye les billets d'avion pour que son fils puisse venir. Vous savez ce qui s'est passé? Du moment où mon fils est revenu chez moi, il ne s'en est plus occupé. Voilà. Et le jour de ses 18 ans, il a téléphoné. Et vous savez ce qu'a fait mon fils? Il lui a raccroché au nez. Il ne veut plus en entendre parler, il ne veut plus le voir. Quand on lui parle de son père, il dit que c'est son géniteur. Voilà.
Et ce divorce
pour l'époque a coûté 50 000 francs, ce qui était une fortune. Mmh. Voilà.
Et l'enseignement que l'on peut tirer de votre histoire, c'est de voir combien, lorsqu'un des deux parents se comporte de cette façon, qu'à un moment ou un autre, eh bien, les enfants, un jour, deviennent grands et ont, eux, leur mot à dire à partir de, bien évidemment, du moment où on les écoute, ces enfants. Et c'est malheureux de voir que ce père n'a agi que pour vous nuire, finalement, et a oublié complètement l'équilibre de son enfant. Merci, Hélène, en tout cas, de nous avoir consacré de votre temps pour nous raconter votre histoire. Et puis, bien, j'espère que cet adulte, aujourd'hui, ce garçon...
Il a 35 ans aujourd'hui, il a eu du mal, mais enfin maintenant ça va mieux.
Bon.
Il travaille dans la décoration, la publicité événementielle.
Bon, il s'en sort.
Oui, ça va, mais enfin, il est marqué, quoi. Et puis son père, il ne faut pas lui en parler, quoi.
On garde sûrement des cicatrices longtemps après ce type de comportement. Mais bon, le temps fait son œuvre. Merci en tout cas d'avoir témoigné
ce soir.
Mais en
fait, merci, parce que c'est une vieille histoire. C'est la première fois que j'en parle. Et voilà, quoi. Ça n'a pas forcément été évident de ressasser tout ça, quoi.
Mais écoutez, merci à vous de l'avoir fait pour nous et pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Hélène. Passez une bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir. Au revoir.